We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored.
Le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève enfin. L'heure est à la paix et aux célébrations.
Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed.
À Hanoï, ce même jour, une autre histoire commence. Après 80 ans de présence coloniale française, le révolutionnaire Ho Chi Minh, qui a fondé la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, proclame l'indépendance du pays.
Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays.
Au 19e siècle, l'Asie représentait pour les puissances occidentales des territoires prometteurs. Pendant 50 ans, la France va étendre ses colonies jusqu'à conquérir toute la péninsule indochinoise. Devenus des protectorats, les royaumes du Laos, du Cambodge et du Vietnam génèrent pour la France des revenus importants. Surnommée la perle de l'Empire, l'Indochine rapporte gros et assure sur place la prospérité des colons grâce à l'exploitation du caoutchouc, des mines, du riz ou encore de l'opium. L'Indochine est, après l'Algérie, le second bénéficiaire des investissements coloniaux français. À plusieurs reprises, les indépendantistes tentent de s'opposer à la métropole, mais aucune révolte n'est en mesure de déstabiliser la puissance coloniale. La défaite de mai 1940 va considérablement changer la donne pour les Vietnamiens. Le régime de Vichy est poussé par l'Empire nippon à accepter une présence militaire en Indochine. Les Japonais veulent en faire une base leur permettant de passer à l'offensive dans la région. Les velléités expansionnistes de l'Empire japonais et le déclin de la puissance française convergent. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Indochine. Après 5 ans de collaboration, les Japonais délogent le 9 mars 1945 l'administration coloniale et confrontent les troupes de l'armée française d'Indochine. L'Empire japonais est à genoux dans le Pacifique et l'Indochine devient une zone stratégique pour renforcer ses positions. Les Français repoussés, le Japon reprend avec ferveur la propagande de l'Asie aux Asiatiques et installe l'empereur Bao Dai à la tête du pays. Mais pour les Vietnamiens, l'arrivée des Japonais au pouvoir n'apporte aucun progrès. En parallèle, le mouvement indépendantiste vietnamien s'intensifie et s'oppose tant aux Français qu'aux Japonais.
On avait les yeux tournés vers le Japon, espérant que le Japon, qui se proclamait toujours défenseur de la race jaune, on espérait que le Japon nous aiderait à nous affranchir du joug de la colonisation. Mais encore une fois, on nous a déçus. De sorte que, à partir du 9 mars 1945, on comprenait la nature de l'impérialisme japonais.
Comment j'ai appris le coup du 9 mars 1945 ? Je ne me souviens même pas d'avoir appris. C'était pendant la guerre, elle n'était pas encore finie. Et on était en pleine libération. On s'occupait plus de ce qui se passait en France que de ce qui se passait à l'autre bout de la terre.
On voit les soldats japonais avec les sabres et tout cela, on les voit défiler dans la rue. Et ils étaient très à part de la population vietnamienne. Ils étaient étrangers au Vietnam. Ce sont des gens très martiaux. Et on les craignait. Beaucoup. Peut-être bien plus que les Français.
Ho Chi Minh, revenant de Chine, après 30 ans d'exil à l'étranger, a créé le Viet Minh. Et la tâche que s'était donnée le Viet Minh, c'est de combattre à la fois les Japonais et les Français de Vichy occupant le Vietnam. De 40 à 45. On ne pouvait pas oublier la famine de 44 causée par l'occupation japonaise française. De sorte qu'en 44, quand les troupes de coalition japonaises avaient besoin de riz et d'uniformes, ce sont les Français qui étaient obligés de régler la question pour eux. C'est des mesures prises par le gouvernement vichyssois. Le gouvernement Hanoï a causé, avant le retour de Ho Chi Minh, 2 millions de morts de famine.
À ce moment-là, nous étions dans une école qui s'appelle l'école Khai Dinh. C'est une école secondaire à Hue. Et tous les jours, il y a des personnes qui venaient nous, nous expliquer que bientôt, il faut avoir un changement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être en esclavage. Il faut vivre indépendant, chasser tous les ennemis qui viennent occuper le pays. Ils nous ont expliqué. Et au premier abord, je ne savais pas. Je pensais que ce sont des maîtres, des cônes qui venaient, mais en réalité, ce sont des Vietmin qui venaient pour expliquer aux étudiants, aux élèves, qu'est-ce que c'est la lutte pour l'indépendance du pays. Et je dois vous dire que ces gens-là ont très bien parlé et ils ont excité notre patriotisme. On a écrit des tracts qui parlaient sur qu'est-ce que c'est le Vietnam, pourquoi il faut libérer le pays, quels sont les gens qui viennent pour nous envahir, etc. Et nous étions déjà des groupes, des écoliers qui travaillent clandestinement pour attendre le jour où le pays sera changé.
Après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945, les Japonais laissent une administration Viet Minh s'installer à Hanoï. L'empereur Bao Dai est sommé de démissionner. Un véritable tournant s'opère avec l'arrivée d'Ho Chi Minh au pouvoir. Le 2 septembre 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, priorité est faite à la reconstruction. En Indochine, c'est le premier jour d'une nouvelle ère. Rentré à Hanoï, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Si cette déclaration passe inaperçue chez les Français, le peuple vietnamien, lui, est enthousiaste.
À la fin, après la proclamation, il a le serment. À ce moment-là, tout le monde a bien écouté. Si les Français vont faire la reconquête coloniale, nous, tous les Vietnamiens, devons ne pas collaborer avec les Français, ne pas être soldats pour les Français. Et à chaque mot, alors tout le monde a mis la main, Sinte, Sinte. Et c'est ça qui reste dans la mémoire.
Pour ma mémoire de cette époque, et pas maintenant, je voyais quelque chose qui bougeait. Autour de nous, ça se voit, les rues sont pavoisées, les gens sont quelquefois enthousiastes, d'autres beaucoup plus prudents, mais on voit quand même que c'est un événement qui marque. Il y a quelqu'un qui a dit le mot indépendance. C'était Ho Chi Minh. Pendant toute la durée, les années qui précédaient, le mot était interdit par les colonies françaises, par le gouvernement colonial français. Le mot était écarté dans tous les discours de la France coloniale. Donc ce qui frappait, c'est le mot indépendance. Et quelqu'un qui a osé, au nom du Vietnam, nouveau, c'était la création de l'État démocratique du Vietnam. Donc pour nous, c'était quelque chose de très nouveau. Donc on sait que l'avenir va bouger, on ne sait pas du tout comment ça va bouger. La question majeure, y aura-t-il une guerre ou non pas de guerre? C'était ça la question.
Nous avons appris la déclaration d'Ho Chi Minh, dont on ne connaissait pas ni les tenants et les aboutissants, ni tout ce qu'il avait pu faire. On peut pas mal discuter sur la résistance que le Viet Minh d'Ho Chi Minh a pu apporter aux Japonais. Il a quand même été un peu satisfait de les trouver sur place et de les trouver ennemis de la France, puisque lui, c'était son but qu'il convoitait depuis longtemps. C'était l'éviction des Blancs de cette péninsule indochinoise. Et les Japonais avaient commencé à faire le travail, si on veut.
Après la libération, les regards vont de nouveau se tourner vers l'Indochine. La France veut récupérer la perle de l'Empire, mais son armée est mal en point, et la situation sur place est compliquée. La puissance grandissante du Viet Minh va finalement convaincre les Français que des négociations sont inévitables pour rétablir leur présence en Indochine. Après la signature d'accord avec la France en mars 1946, Ho Chi Minh part à Fontainebleau, où doit se tenir une conférence de paix. Les négociations sont un échec et la situation sur le terrain se détériore.
Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons.
Je me rappelle en octobre, Hô Chi Minh était venu dans notre collège Chiruvun et il a assisté à un cours de français. Alors, il a insisté qu'il y a des malentendus entre les Français et les Vietnamiens, il y a des hostilités, mais nous estimons la culture française. Et même après, quand la guerre a éclaté, ils ont dit que nos ennemis, ce sont les colons, les sociétés qui ont beaucoup d'intérêts sous le colonialisme. Mais avec le peuple français, on a la fraternité. Et nous sommes pour ça.
Fin novembre, dans le port d'Haïphong, la tension monte d'un cran suite à un contrôle douanier. Si jusqu'à présent une paix fragile subsistait, une succession d'incidents va mener à l'irréparable. Le colonel Debesse fait bombarder Haïphong par 3 navires de guerre français, provoquant la mort de milliers de personnes. Fallait-il y voir une tentative des Français pour mettre un terme à l'indépendance que le Vietnam était en train d'acquérir ? En décembre, les troupes d'Hanoï répliquent et tentent de déloger les Français. Cette offensive est un échec. C'est le début d'une guerre qui va durer plus de 7 ans.
Theo lời kêu gọi của vị lãnh tụ kính yêu của mình.
Mời đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Thầy đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
Nous avons retenu notre serment de ne pas collaborer les Français et c'est pour ça que je m'étais engagé dans la Ligue des lycéens. Alors, on a comme activité, par exemple, distribuer des tracts dans les journées, par exemple, la commémoration de Hô Chi Minh, de la naissance de Hô Chi Minh. Et chaque hiver, nous tricotons beaucoup de pullover pour les soldats de la résistance, pour offrir le cadeau pour la victoire, pour les soldats, la victoire, et de retenir le feu de la foi en la victoire finale de Hô Chi Minh.
Comme représentait pour moi le Viet Minh, c'est difficile de dire ça. Parce que, là encore, on ne voyait pas bien ce que c'était. On pensait que c'était une petite révolte qui prenait l'occasion des difficultés de la France après l'occupation japonaise pour essayer d'entamer une guerre d'indépendance. Il y avait eu des révoltes déjà bien avant la guerre. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait eu des tentatives de ce genre. Et on nous disait, non, vous verrez, on arrivera très bien à juguler cette petite révolte sans grand moyen. Mais À mesure que on prenait l'expérience, on s'apercevait quand même que c'était quelque chose de sérieux.
L'idée essentielle de Hô Chi Minh, c'est une idée capitale et humaniste. Parce qu'auparavant, au Vietnam, on parlait toujours de lutte contre les jaunes contre les blancs. C'est-à-dire une motivation raciste. Là, pour Hô Chi Minh, il faut effacer cette distinction de peau. Nous devons chercher l'amitié du peuple français en combattant la politique de colonisation française. Avec cette différence fondamentale entre peuple et gouvernement, le peuple vietnamien a conscience que ce n'est pas une lutte de race, mais c'est une lutte pour la liberté. La question de race n'intervient pas. C'est très important.
Pour nous, Hô Chi Minh reste l'ennemi. C'était un monsieur d'origine annamite, puisque à l'époque on parlait plus de l'Annam que du Vietnam, et il avait bénéficié de l'accueil que la France lui avait réservé. Et malgré ça, il a combattu la France pendant longtemps. On ne pense qu'à une chose, c'est d'aller combattre en Indochine.
Vous savez, mon choix est très difficile parce que je suis issue d'une famille royale de Hué et je dois dire vraiment qu'à cette période-là, les autres Vietnamiens peut-être ont souffert, ont beaucoup souffert sous la colonisation, mais nous non. Devant le départ de presque tous mes collègues qui partaient pour rejoindre la résistance, j'étais entraînée. Tout d'abord, j'étais entraînée par cette guerre. Et puis, je ne veux pas être quand même sous l'esclavage. Mon chef de section clandestine, un clandestin, il m'a dit que, voilà, à minuit, il faut partir pour rejoindre le rang de résistance. Quand je quittais là, j'ai une nostalgie terrible de ma famille, mais en même temps, je pense que c'est un devoir des jeunes de participer à la résistance.
Bố tôi phải bán cái nhà đó để lấy tiền buôn bán, còn biết rằng lấy tiền mua gỗ, mua những cây gỗ để mà cắt ra làm cho người ta đóng cối hay là áo quan hay là làm cánh cửa cái ghét ấy. Thì cộng sản lúc kia là Việt Minh này lấy những cây gỗ đó của bố tôi nên làm cái ủ. Chẳng thời gian sau đó là bố tôi cũng buồn yếu xong chết.
On m'a affecté comme conseiller provincial de la province de Bac Ninh. La ville de Bac Ninh était occupée entièrement par le Viet Minh. Et ceci était une indication quand même sur l'importance que prenait ce mouvement. C'était des gens qui occupaient une ville. D'autre part, je faisais des tournées dans la région, toujours sous la protection de l'armée, d'ailleurs, ce qui en disait long, n'est-ce pas ? Et il nous arrivait tout d'un coup de tomber sur un village où il n'y avait plus personne. D'autres villages où, dans la nuit, trois notables avaient été décapités. Le Viet Minh savait très bien manier la force et la persuasion. Alors là, on finissait par se rendre compte que c'était profond et que c'était des gens qui étaient prêts à continuer un combat. Et puis, on se rendait compte aussi qu'ils étaient chez eux.
Tout d'abord, j'étais à Hué pour participer à la résistance. À ce moment-là, le ministère de la Défense vietnamienne, dans la jungle, hein, nous a demandé à mobiliser tous les gens qui parlent français. Et ils nous ont dit, maintenant, le Vietnam, en lutte, on n'a pas d'armement, on n'a pas d'explosifs. Et vous devez étudier pour fabriquer les explosifs. Nous, on dit oui, on ne sait pas quoi faire. Alors, on ouvre un cahier chimique d'un Français. Pour fabriquer des explosifs comme les fuminates, le poutre noir, etc. Il faut combien de grammes de fuminates, combien de grammes d'acide chlorhydrique, combien de grammes, etc. C'est une formule. Et nous, on prend ces formules-là et on essaye de faire des explosifs à partir des expériences de zéro. On n'a pas d'expérience, on commence à faire des explosifs. Et chaque personne a une table de travail et au-delà de la table de travail, il y a une tranchée. Un cas où les explosifs éclatent, on lance très vite la table sous le tranchée, c'est tout. Tout ça comme mesure de précaution. Et moi, je suis chargée comme chef du département de fabrication de la fuminate. Vous savez, la fuminate, c'est quelque chose pour amorcer les balles. Il y a une amorce, il y a 2 grammes seulement d'explosifs, et si on percute comme ça, le fuminate explose et pousse la balle dehors. Donc ils ont écrit dans le livre « 2 grammes fuminate égale une vie ». Et moi, j'ai fabriqué dans ma vie peut-être des dizaines de kilos. Je veux vous dire ça pour dire que la mentalité de la jeunesse de cette époque-là s'en va dans la résistance, supporter les privations, les difficultés, les dangers, avec un vrai sentiment patriotisme pur. On ne savait même pas qu'est-ce que c'est le communisme, on ne savait rien du tout, seulement c'est pour servir le pays.
Si la France contrôle les villes, le Viet Minh, de son côté, renforce son influence dans les campagnes. L'armée française, pour contrer la montée de la résistance vietnamienne, décide d'établir des postes militaires fortifiés dans les campagnes. Ce jeu de go va être bouleversé par l'arrivée des communistes chinois à la frontière nord.
Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, làm lệch cán cân lực lượng thế giới về phe ta. Từ mùa đông năm 50, hình thái phản công cục bộ đã xuất hiện, ta chủ động mở một loạt chiến dịch lớn. Tháng 9 năm 50, chiến dịch biên giới.
Lorsqu'on était un petit peu rodé, si l'on peut dire, on nous a expédié sur l'RC4. L'RC4 est une route qui longe toute la frontière de Chine. Et le but de tenir toute cette zone était d'empêcher le passage des troupes chinoises et de tout le ravitaillement que faisaient les Chinois au Viet Minh. Et il y avait des postes, tous les 5-6 kilomètres à peu près, tenus par la Légion et qui étaient ravitaillés par des convois de camions qui montaient depuis Hanoï jusqu'à Cao Bang.
Pour nous, armée vietnamienne, à ce moment, comme armement, nous étions très faibles. Il n'y a pas de mitrailleuses. Nous pouvons dire que les Français étaient 100 fois mieux armés que nous à ce moment. Jap m'a donné le Viet, tu vas rester ici. Tu ne rentres pas à l'état-major. Reste sur RC4 pour combattre contre les Français. J'ai demandé à Zap comme condition combien vous pouvez me donner d'obus, combien vous pouvez me donner de fusils, n'est-ce pas? Zap a dit qu'il n'y a rien à te donner. Tu n'as qu'à prendre aux Français. Les Français vous, te servira d'internat.
Il fallait assurer le passage de ces convois. S'assurer que les Viettes n'installent pas des barrages ou des... Enfin bref. Et on allait tout le long de l'RC4 sur des pitons. Entre les postes, on s'installait de manière à assurer la sécurité pour le passage du convoi. Nous, par exemple, on était une section était un piton un petit peu plus loin. On tenait un certain nombre de kilomètres.
Et pour lutter contre une telle armée, comment faire? On ne peut pas faire attaquer les postes. Si on attaque les postes, on se donne tout de suite la mort, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dû employer une mode d'attaque facile et propice pour nous, c'est-à-dire faire les embuscades sur les convois qui circulent sur la route. Nous profitons des portions de terrain entre deux postes faire l'embuscade. Et si nos troupes sont révélées, tout de suite ils sont pilonnés, mitraillés ou bien canonnés, n'est-ce pas? C'est pourquoi les premières manières de faire la guerre à ce moment, c'était les embuscades sur les convois.
Un jour, il y a eu une attaque quand même par les Viettes. Et le convoi a été cramé complètement. Tous les camions ont flambé, ont été pillés, enfin bref. Et on nous a envoyés en renfort sur ce coin-là qui était tenu par les Spahis. Quand on est arrivé, on a vu qu'ils n'avaient pas occupé les sommets. Comme nous, ils étaient restés en bas. Ce qui fait que les Viettes sont arrivés par en haut, puis alors là, ils les ont massacrés.
La route coloniale 4 mène aux villes de Langson, Tatke, Tongke et Kaobang, qui sont fortifiées par l'armée française. Mais la tenue de la frontière chinoise devient de plus en plus coûteuse en hommes et en matériel. À la suite d'un rapport du général Revers, le commandement français décide de se retirer de Kaobang par la route. L'évacuation doit alors se faire avec deux convois militaires, l'un partant de Kaobang vers le sud et l'autre partant de Langson vers le nord pour le rejoindre.
Et on nous a annoncé qu'on allait évacuer Kaobang, qu'il fallait détruire tout ce qui pouvait être détruit et qu'on ne pouvait pas emmener trop de choses, à part les munitions. Est-ce que c'est une erreur? Ça, je ne sais pas. Moi, personnellement, je le pense, mais enfin ça... la décision a été prise, on appelle ça le plan Revers, et ça a été parlé, ça a été dit dans les journaux en France et tout ça, c'était connu. Et donc si c'était connu en France, les Viettes le savaient aussi. Hein.
Pour libérer la RCK, la question principale, c'est-à-dire chercher à détruire la force vive de l'ennemi. C'est pourquoi Diap a pris la décision d'attaquer Tongke. C'était un, par exemple, le Kaobang ici, n'est-ce pas? Tongke, c'est le cou, trancher le cou. La tête doit tomber.
Donc le 4 au matin, on est parti après avoir fait sauter tout ce qui était intransportable. Alors on est parti. Au bout de 2 jours, on n'avait pas avancé beaucoup. On a détruit les 2 camions qu'on avait emmenés, il y avait une pièce d'artillerie qu'on a fait sauter aussi. Et on a un appel au secours venant de Tatke, où une colonne venant du sud qui devait venir à notre rencontre pour nous aider. Mais ils se sont engagés dans les calcaires et ils sont tombés sur le gros des troupes vietmines. Et là, ils ont été... pas entièrement exterminés, mais presque. Hein. On les a attendus et ils sont arrivés en même temps que les Viettes. Hein. Les Viettes, les coursaient. Alors donc, les deux colonels ont dit « Bon, ben, alors, chacun pour soi et rendez-vous à Tatke. » Et là, ça a été le début. On a été d'embuscade en embuscade. En arrivant dans la plaine de Tatke, on voit l'RC4 et des camions dessus. On dit « Bon, ben, on ne va pas aller jusqu'à Tatian encore à pied, on va aller jusqu'à la route et puis ils nous rapatrieront en camion. » Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on est arrivé sur l'RC4, c'était les Viettes qui avaient les camions et qui nous ont fait monter dans leurs camions. Hein.
En 7 jours, nous sommes arrivés à exterminer 5500 forces d'élite, 9 bataillons français. Avec l'extermination de ces forces, il y a un effondrement de morale chez les troupes françaises. Quand mes troupes marchaient sur Tongke, j'ai appris que Tongke est évacué, le pays est évacué. C'est la débandade, une sorte de débandade.
La dernière attaque, celle qui aboutit à ce désastre de la RC4, était parfaitement organisée. Ils ont su saisir l'occasion du retard apporté par le colonel Charton dans l'évacuation de Kaobang pour attaquer successivement les deux colonnes, celle qui descendait de Kaobang et celle qui montait de Langson à sa rencontre et qui aurait dû faire une jonction parfaite. On a eu le sentiment que ça avait été une opération inutile et qui avait abouti à un désastre. Doublé du fait qu'il y a eu l'évacuation aussi de Langson. Et on s'est toujours demandé pourquoi avoir abandonné aussi Langson, qui n'était absolument pas menacé à ce moment-là. En tout cas, pour moi, ça a été un crève-cœur.
Comme la route numéro 4 est libérée, il y a un grand mouvement de changement, vraiment radical, parce que la ligne de ravitaillement commence à être plus facile. Il n'y a plus des blockhaus français tout le long de la RC4. Donc à ce moment-là, le trajet est plus facile. Avant, on a 7 kilos de riz, maintenant on a 10 kilos. Alors c'est une portion de plus pour tout le monde qui travaillait dans la résistance. Après 50, comme la victoire de Cao Bang Lanson, la route RC4, nos organisations commencent à vivre dans des demi-abris. On a la lumière pour travailler et le soir on dormait. Tandis qu'avant, on dormait complètement sous la terre.
Ça a été le tournant. C'est là où on s'est rendu compte que le Viet Minh avait acquis une puissance imprévisible. Si, je dis imprévisible, mais c'était prévisible. À partir du moment où les troupes de Mao Tse-tung étaient arrivées à la frontière entre l'Indochine et la Chine pendant l'année 49, on savait que la Chine devenait une formidable base arrière pour le Viet Minh. C'était le tournant. C'était le grand tournant et qui devait laisser présager le désastre de Dien Bien Phu 4 ans plus tard.
Suite à la défaite de Cao Bang, la situation de la France est précaire. Le Viet Minh possède maintenant une base arrière dans la puissante Chine communiste. Le corps expéditionnaire français ne s'oppose plus à une guérilla, mais à un ennemi entraîné et lourdement armé.
On a craint effectivement, lorsque les troupes de Chiang Kai-shek ont passé la frontière, que le reste des troupes chinoises suivent. Là, on n'était pas tellement fiers. Hein. Parce que lorsqu'on a vu l'équipement des troupes de Chiang Kai-shek qui étaient équipées par les Américains, ils avaient de l'armement qui était bien supérieur au nôtre. Ils étaient équipés, ils avaient des postes radio qu'on n'avait pas, enfin ils étaient réellement équipés. Alors pour qu'eux fuient devant les communistes qu'ils avaient au cul, c'était pas encourageant. Hein. On se demandait bien qu'est-ce qu'il allait se passer. Ils n'ont pas suivi, heureusement.
Le 10 décembre 1949, des éléments fidèles à Chiang Kai-shek, pressés par les troupes de Mao Tse-tung, se présentaient à la frontière du Tonkin. Après avoir connu la victoire aux côtés des Alliés en 1945, les troupes du Kuomintang, qui ne cessaient de guerroyer depuis 1937, ont dû laisser aux troupes de la République populaire le contrôle de la Chine continentale. L'arrivée des troupes communistes à la frontière de l'Indochine a mis l'accent sur le véritable sens du conflit indochinois. À l'heure actuelle, en Extrême-Orient, de la Corée à l'Indochine, le monde démocratique se trouve face à face avec un nouveau totalitarisme.
La France renforce ses effectifs en envoyant l'un de ses plus brillants officiers, le général Delattre de Tassigny, grande figure de la France libre, afin qu'il trouve des solutions efficaces pour stopper le Viet Minh.
Ce que je pensais du général Delattre, j'en pensais le plus grand bien. Comme il disait, l'armée française a pris du ventre, on va lui redonner du muscle. Et il l'a fait. C'était très sensible le changement de mentalité de l'armée dès la prise de fonction du général Delattre.
Je peux vous dire que dans chaque armée, vous avez l'armée française, vous avez des points forts, mais aussi vous avez des points faibles. L'armée française est une armée beaucoup mieux armée que l'armée vietnamienne. C'est un point fort. Vous avez des canons, vous avez des avions, vous avez des tanks. Vos troupes étaient bien entraînées, mieux entraînées que les nôtres. Mais le point faible des Français était, vous n'avez pas le support du peuple.
La population vietnamienne soutient majoritairement le Viet Minh et la légitimité de la France s'étiole. Afin de récupérer l'engouement du peuple pour une indépendance vietnamienne, la France rappelle l'empereur déchu Bao Dai et l'assied à la tête d'un État sous égide française. C'est l'initiative Bao Dai.
Nous n'avons pas d'arrière-pensée. Nous voulons que l'indépendance du Vietnam soit réelle, effective, sensible pour le plus humble paysan comme pour les intellectuels de Hanoï, de Hue ou de Saigon. Je vous assure que les Français d'Indochine, très injustement taxés de l'affreux terme de colonialistes, sont si profondément attachés à ce pays qu'ils comprennent et consentent les évolutions nécessaires.
L'initiative Bao Dai permet de créer une armée d'opposants au Viet Minh dont les conscrits se battent aux côtés des Français.
Trong cái lúc chiến tranh, mình cũng để ý chứ. Cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì phải, cái gì trái. Thì tôi chọn đứng dưới lá cờ Pháp. Cái lúc bây giờ mà tôi tình nguyện ở quê tôi thì vào cũng khoảng, thì bên Việt Nam, bên Việt Minh thì cũng đấy độ 10 người, thì bên này, bên Pháp thì cũng được 10 người. Tôi nói thí dụ như vậy, thì cũng một nửa một nửa. Thế thì mỗi người là mỗi có một cái trường hợp khác nhau, hay là lý do gì đó. Đó. Thế thì họ cũng tình nguyện. Nhưng mà cái thành phần mà tình nguyện và cái đơn vị của tôi, có thể có vài người làng khác, nhưng mà quê tôi có mình tôi. Trong cái tiểu đoàn.
Diplomatiquement, le conflit va se déplacer. La reconnaissance d'un État vietnamien va permettre au général de Lattre de convaincre les États-Unis que la guerre au Vietnam n'est plus une guerre coloniale, mais une véritable lutte contre le communisme. Sensible au sujet, les États-Unis apportent aux Français un soutien financier de taille. En 1954, plus de 80% des dépenses françaises sont prises en charge par les Américains. Malgré les moyens déployés, les Français s'enlisent militairement et le Viet Minh continue de croître et d'étendre son influence.
In Indochina, the Reds take a hammering. General Dolinar's French theater commander sees his flyers blast the enemy with napalm bombs. With French and loyal Vietnam forces disorganized after the death of the dynamic General De Lattre, the Reds made substantial penetrations into Allied territory. But now counterattacks have pushed the enemy back and have taken nearly 5,000 new communist prisoners in this six-year-old, $3 million a day war.
Indochine, autre parachutage. La guerre continue, plus violente et acharnée. Au Tonkin, dans les rizières comme dans les montagnes, nos camarades portent coup sur coup aux unités communistes du Viet Minh. Au Tonkin, ce bastion avancé de la civilisation, l'armée française continue à se battre, seule, pour la sauvegarde de toutes les nations libres.
Après 8 ans de guerre, la France n'arrive pas à stopper l'avancée du Viet Minh. Pour contrer les troupes vietnamiennes du général Giap menaçant le Laos, le général Navarre décide en novembre 1953 d'établir un camp retranché à Dien Bien Phu. Le gouvernement veut pouvoir négocier en position de force lors de la conférence sur la paix en Asie qui aura lieu fin avril à Genève. L'issue des combats sera déterminante dans les négociations. Des parachutistes sont envoyés alors dans la plaine de Dien Bien Phu.
Dès l'arrivée au sol, les premières sections sont accrochées sérieusement par les troupes Viet Minh, surprises de cet assaut. Les armes automatiques, canons sans recul, mortiers, entrent immédiatement en action. Le Viet Minh se retire précipitamment vers les collines boisées. Les chasseurs Birkat et les bombardiers B-26 protègent les parachutages et attaquent les éléments Viet Minh réfugiés sur les collines proches, dans une jungle épaisse. La cuvette est rapidement occupée. Les blessés sont évacués au moyen d'hélicoptères Sikorsky. Les troupes parachutées aménagent la position et construisent des fortifications. Le matériel lourd, des bulldozers de 7 tonnes, des jeeps, des motocyclettes, sont larqués et vont permettre la remise en état d'un terrain propice à un pont aérien entre Hanoï et Dien Bien Phu. De Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique. Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse de Dien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile puissamment défendu, aux liaisons assurées.
Nơi diễn ra cuộc chiến đấu cuối cùng quyết định số phận của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngày 3 tháng 12 năm 53, Nava hạ quyết tâm chiến lược, ra sức tăng cường Điện Biên Phủ, tiếp nhận chiến đấu với chủ lực ta. Quả thật, Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh. Lực lượng địch có 16.200 tên thuộc các lực lượng tinh nhuệ bậc nhất Đông Dương, đóng trong 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu yểm hộ lẫn nhau. Điện Biên Phủ mạnh như vậy, ta có chủ trương đánh không? Tổng quân ủy nhận định, tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì mới đánh bại được hình thức đối phó cao nhất, mới nhất của địch, đập tan kế hoạch quân sự Nava. Sau khi cân nhắc kỹ, so sánh lực lượng ta địch, Tổng quân ủy đã chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với địch, hạ quyết tâm lịch sử tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ nay, Điện Biên Phủ trở thành mặt trận chính của toàn quốc. Chưa chiến dịch nào bộ đội ta lại xuất quân với một khí thế hăng hở lập công như không đông năm ấy.
Le Viet Minh se prépare pour l'assaut sur Dien Bien Phu en amenant sur des vélos tout le ravitaillement nécessaire à la bataille.
Avant de préparer Dien Bien Phu, les Vietnamiens ont posé des dépôts de riz tout le long de la route qui sillonne à 20 km, 30 km, il y a des dépôts de riz. Chaque personne a apporté 20 kilos de riz à la frontière pour donner manger aux soldats. Et les gens qui conduisent les bicyclettes avec plein de riz, ce n'est pas seulement des hommes, des femmes aussi. Et ces femmes sont bien organisées, plus disciplinées, plus d'endurance, dont les femmes jouent un rôle important même dans la logistique pour la guerre.
Des milliers de porteurs lui assurant la logistique, le général Giap positionne les canons sur les collines avoisinant le camp français basé en dessous. Le 13 mars 1954, un déluge de feu s'abat sur l'une des positions françaises qui tombe en quelques heures. La puissance Viet Minh est une surprise pour les Français. La piste d'aviation, seule échappatoire, est rendue inutilisable par les bombardements. Les Français sont maintenant piégés dans la cuvette de Dien Bien Phu.
Alors bon, on est là, on ne sait pas quoi faire. On essaye de savoir ce qui se passe. On envoie des patrouilles avec mission de ne pas accepter le combat et de rentrer dès qu'ils se font tirer dessus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Et puis très rapidement, on a vu la nuit avec l'éclairage du champ de bataille. Vous savez, il y avait un avion qui tournait et qui balançait les grenades éclairantes au magnésium. Là. On a vu les Viettes approcher. On a vu les Viettes faire leurs tranchées. On les voyait presque pas. Et d'un seul coup, on ne voyait plus rien. Ils étaient couchés. Et en dessous d'eux, ils creusaient. Et ils faisaient comme ça des tranchées pour arriver à nos barbelés. Et à ce moment-là, ils avaient des explosifs au bout d'une perche. Et ils faisaient sauter nos barbelés. Et dès qu'on entendait l'explosion dans les barbelés, on savait qu'ils étaient tout prêts.
Rồi, 4 giờ sáng. 4 giờ sáng nhé. Quân của tôi, cái tiểu đoàn đó, cái quân của tôi mới đóng chung quanh cái quả đồi. Gọi là Dominique Toa. Dominique Toa là có ý gì? À, thế là hai bên 4 giờ sáng, nó cách tôi 3 thước. Tôi có 7 người trong này chết 2, chết 5 rồi còn có ai. Tôi có 16 quả lựu đạn tôi ném ra hết mà rồi. Nó nhảy như sao, nhảy đẹp lắm. 4 giờ sáng, cách nhau có mấy mét này. Còn khi mà nó lên thì tôi đã bị thương rồi, nó đánh bằng nĩa lê đó. Tôi bị thương rồi. Tôi còn nói câu này nha, tôi nói câu này. Cái dân Bắc mà. Xin lỗi nha. Địt mẹ mày tao hết đạn rồi tao chạy đấy. Nha, địt mẹ mày tao hết đạn tao chạy. Đấy. Có 10 mấy quả lựu đạn nó hết rồi. Súng đại liên nhất, phem nhất hết rồi. Mấy người Pháp mình cũng chết hết rồi. Mấy người đó. Rồi, sau đó tôi mới chửi câu đó. Địt mẹ mày tao hết đạn tao chạy. Rồi nó chửi lại. Còn mẹ mày, tao cho mày què đó. Què thiệt. Đó bắn vào đây. Què thiệt. Thế giờ câu nói, tôi chửi nó chửi tôi bằng cái tiếng Việt ấy. Tôi chết rồi, tôi nằm đấy. Bị thương rồi, tôi xuống cái hố này. Thì nó cho thầy chết rồi. À, nó cho thầy chết rồi, nó không bắn nữa. nó không chết rồi, nó cho nó không bắn nữa. Cho viên đạn đây thì mình làm cho cái thằng C của mình á, mình đào, mình làm như thế này thì nó mình cho nó chết rồi. Rồi những cái quân đoàn khác nên đánh lại cộng sản. Cái trong cái lúc buổi sáng ngày mùng 3 đó, tháng 3 đánh lại thì mới lấy tôi đưa về trung tâm của hôpital Dr. Robin Medesensep này. Rồi mới sửa chữa cho tôi, mới đưa tôi, tức là đáng ra là phải đưa tôi về tiền tuyến, tức là đưa về Hà Nội, ở Sài Gòn, nhưng mà chưa kịp đưa tôi, thì đưa cho tôi về cái hầm, lại một cái hầm nữa, nằm ở trong cái hầm mình tự đào đó, rồi vẫn có súng, có ít, vẫn có súng ống nhiều mà, đêm mất, chân chưa cưa, thì có bị thương bó, rồi bị thương đau thì có đau mà uống thuốc nó giảm, nhưng về sau là nó nằm độc quá thì mới bị cưa. Đêm đấy vẫn tiếp tục đánh, nó ra nó cắt dây kẽm của mình, mà nó cắt dây mìn của mình, rồi bắn nữa, bị thương rồi đấy nhá, nằm trong giấy này, các vị đã có nói mà, ông này ông đánh ông nó tàn phế rồi ông vẫn đánh nhau.
Encerclé et coupé de toute retraite, le camp retranché de Diet Bien Phu tombe le 7 mai 1954. Le commandement français ordonne l'arrêt du feu.
Quand on suivait un peu toutes les opérations qu'il y avait, on sentait que ça ne tournait pas bien du tout. Moi, je le sentais en tout cas. Mais je l'ai surtout senti au moment où on a engagé l'affaire de Dien Bien Phu. On m'a appris, moi, quand j'ai fait un peloton d'élèves aspirants, qu'on n'enferme pas une forteresse au fond d'une cuvette. Alors là, on a su que c'était fini.
Les accords de Genève, signés le 20 juillet 1954, mettent fin à 9 ans de guerre. Le Vietnam est séparé en deux zones, au 17e parallèle. L'accord prévoit une élection générale pour la réunification sous 2 ans.
Les accords de Genève ont été bien négociés. Ils ont abouti à 6 ans de paix, mais c'était quand même, à y regarder de près, une solution provisoire. Les gens du Nord ont accepté cette paix, si on peut dire, parce que ils avaient besoin de souffler un petit peu. Mais connaissant le Viet Minh comme on le connaissait, on savait très bien qu'il ne laisserait jamais le Sud devenir un autre État. Il ne marcherait pas dans cette combine des deux États. Il voudrait absolument reconquérir le Sud, ce qu'ils ont fait.
Les accords de Genève, pour nous, c'est un aboutissement de la guerre, finalement. Il fallait conclure. La conclusion va obligatoirement exclure la France coloniale du jeu. La France coloniale a perdu. Mais le Vietnam non plus n'a pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a une partition du pays en deux. Donc c'était pour moi, c'était quelque chose de difficile. L'accord qui aboutit à la fin de la guerre, mais pas du tout à la paix ni à la réunification du pays, qui est le but suprême. Quel est le but du Vietnam pendant la guerre? C'est l'indépendance et la réunification. Il faut que ce soit un pays indépendant. L'accord de Genève aboutissait à un pays en partition. Donc pour moi, c'est quelque chose de très mitigé, très désagréable. C'est quelque chose de non fini. De mal fini, en tout cas. Si le regard se porte, je dirais, idéologiquement, je dirais une guerre d'indépendance est une guerre juste. Il faut avoir l'indépendance du pays. À quel prix? Je ne peux pas fixer. Avec des morts, tant de morts pour la guerre d'indépendance, et ensuite la réplication, je ne peux pas approuver. Tant de souffrances, tant de morts, les deux côtés. Il me reste ceci à travers la gorge, une indépendance, mais combien de morts et combien de haine. Et maintenant, que fait-on pour nous vraiment réunir ensemble? Mais entre Vietnamiens, est-ce que la paix s'installe? dans le cœur des gens. La guerre est finie, mais pas la paix.
Après 9 ans, la guerre d'Indochine s'achève enfin. La France quitte le Vietnam en silence, le conflit se termine dans l'indifférence générale. Si pour la France, le chapitre indochinois se referme, au Vietnam, la paix s'éloigne peu à peu. Les accords de Genève ne seront pas respectés et la réunification du pays n'aura pas lieu. Pire, entre les deux Vietnam, les rivalités s'exacerbent. Le pays sera bientôt l'un des théâtres de la guerre froide, où les communistes, soutenus par les Russes et les Chinois, affronteront les États-Unis et l'armée sud-vietnamienne.